Histoire sur la Sainte Eucharistie. Les hosties d'Alcala. En 1597, un bandit apporta au père Jaurès, jésuite, au confessionnal, un paquet d'hosties qu'il déclara provenir d'un vol dans une église. Le jésuite examina les hosties, les trouva fraîches, mais constata qu'on les avait foulées aux pieds. Sur le conseil de ses supérieurs, il les conserva soigneusement et les examina de temps en temps. Après plusieurs mois, il les trouva intactes. L'autorité ecclésiastique ordonna alors d'y mêler 4 hosties non consacrées et de les déposer dans un caveau humide, dont on mit la porte sous scellée. Quelque temps après, les autorités ecclésiastiques soumirent ces hosties à un examen et trouvèrent les hosties non consacrées attaquées par la moisissure et les autres en parfait état de conservation, quoiqu'elles fussent de la même composition que les autres. Elles sont encore à Alcala, qui est devenu un lieu célèbre de pèlerinage, et on les porte en procession au milieu d'une foule immense le second dimanche après Pâques. Je ne sais pas si cette tradition perdure, continue. Alors, le bon Dieu a permis que les hosties consacrées ne moisissent pas. Il faut savoir que ce n'est pas systématique. Le bon Dieu a fait ce miracle pour qu'on différencie bien les hosties consacrées, pour qu'on voit bien qu'elles étaient consacrées, puisqu'on se posait la question. Mais il se peut que dans une église très humide, où les hosties sont oubliées, elles arrivent à moisir. Donc ce n'est vraiment pas une bonne chose, c'est vraiment grave de laisser des hosties sans surveillance dans une église. Normalement, le prêtre doit changer la sainte réserve. La sainte réserve, ce sont les hosties consacrées, je crois, tous les 15 jours, sinon tous les mois. Oui, ça doit être tous les mois. Il doit dire normalement la messe tous les 15 jours sur l'autel où il y a un tabernacle contenant les hosties consacrées. Mais il doit les renouveler, c'est très important. Le corporal de Waldürn. Waldürn, qui est aujourd'hui le diocèse de Fribourg à Brisgau, appartenait autrefois au diocèse de Würzburg. Sous le règne de Louis le Germanique en 1330, un prêtre de cette ville, Henri Otto, eut le malheur, après la consécration, de renverser le calice. Vous voyez que ce sont des accidents très regrettables, mais qui peuvent arriver. C'est pour ça qu'on doit mettre obligatoirement 3 nappes sous l'autel. Comme ça, les nappes boivent le précieux sang. La terreur du pauvre prêtre augmenta encore quand il vit sur le corporal se former des plaques de sang au milieu desquelles apparaissaient des têtes de Christ couronnées d'épines. Dans son trouble, il cacha ce corporal sous la pierre d'autel, mais il tomba bientôt gravement malade et, pressé de remords, il avoua au prêtre qu'il administra le fait qui lui était arrivé. Il avait caché ce corporal, il avait mal fait. Il aurait dû en parler à son évêque, à ses confrères, pour qu'ils étudient la question de ce prodige. Et là, le bon Dieu l'a puni. Mais Dieu merci, il a pu se confesser. On retrouva à l'endroit indiqué le corporal miraculeux, qui devint bientôt l'occasion de nombreuses guérisons. Aussi, Eugène IV le fit-il apporter à Rome pour le soumettre à un rigoureux examen. Il constata la réalité du prodige et accorda une indulgence plénière à tous les pèlerins qui visiteraient l'église de Waldürn pendant l'octave du Saint-Sacrement, qui y recevraient les sacrements. L'octave du Saint-Sacrement, c'est la période, ce sont les 8 jours qui suivent la fête du Saint-Sacrement. Je vous rappelle que l'indulgence plénière, c'est la remise, c'est-à-dire la suppression de la dette de nos péchés que nous devons payer ici-bas, sinon au purgatoire. Si on arrive à gagner une indulgence plénière, d'une manière totale, eh bien nous sommes délivrés de cette peine, de cette dette de nos péchés. Mais je dis toujours que c'est très difficile de gagner l'indulgence plénière d'une manière plénière. Alors on la gagne partiellement. Pourquoi est-ce que c'est très difficile? Parce qu'il faut avoir une intention très très droite, avoir une âme très pure pour la gagner. Mais on on essaie de la gagner, et si on ne la gagne pas entièrement, on la gagne partiellement, et si on en gagne plusieurs partiellement, eh bien on arrive à effacer beaucoup de dettes de ses péchés. Alors, ce pèlerinage dont nous venons de parler, hein, à l'honneur de ce prodige, ce miracle eucharistique, fut si fréquenté que l'église dut être remplacée en 1700 par un bâtiment plus grand, copié sur les plans de la basilique de Saint-Pierre à Rome. Le corporal miraculeux y est exposé depuis la Trinité jusqu'au quatrième dimanche après la Pentecôte. Mais ça fait beaucoup, ça, parce que la fête de la Trinité se passe après la Pentecôte, donc ça fait presque un an qu'il est exposé. Sur un autel d'albâtre, dans une châsse d'une grande richesse, il est exposé. Les têtes de Christ y sont encore visibles, quoiqu'elles aient pâli depuis 600 ans. Je ne sais pas du tout ce qu'il en reste maintenant. Léon XIII a étendu l'indulgence plénière à toute cette période, et il y a près de 25 000 pèlerins qui viennent pour la gagner. Espérons que cette ferveur continue. Vous voyez combien le bon Dieu est bon. Il fait vraiment tout ce qui est en son pouvoir, en sa puissance pour nous aider à aller au ciel. Il faut profiter de tous ces moyens. Profiter des indulgences. Et les indulgences, vous pouvez en gagner très facilement. Des petites indulgences, mais vous cumulez les petites indulgences et vous allez arriver à effacer beaucoup de dettes de vos péchés. Vous pouvez gagner des petites indulgences en faisant une bonne action que l'on offre au bon Dieu, en faisant bien son devoir d'État, en faisant des actes de contrition, des actes d'amour. Et il y a aussi des prières qui sont indulgencées. Vous le voyez, à la fin de la prière, c'est écrit indulgence de 100 jours, indulgence de 40 ans, etc. Cela veut dire que ces indulgences suppriment une partie de la dette de nos péchés. Une autre hostie miraculeuse. L'hostie saignante de Brigue-aux-Bois. Cet endroit, qui se trouve près de Sedan, fut en 1859, pendant 4 jours, le théâtre d'un éclatant miracle en faveur de la présence réelle. Le 7 février, le curé Titeux remarqua à sa messe, à la consécration, des gouttelettes de sang sur les plaies du crucifié marquées sur l'hostie. Il appela d'abord les enfants de chœur, puis les assistants, parmi lesquels plusieurs religieuses, pour constater si d'autres voyaient la même apparition. C'était en effet le cas. Et cette apparition se reproduisit jusqu'à 3 fois, quoique le prêtre cherchât à la cacher. À la cacher par humilité, il était impressionné par ce miracle. Enfin, il résolut, si le prodige se renouvelait, de conserver l'hostie. Cela arriva le troisième dimanche après Pâques, et plus de 600 personnes constatèrent la réalité du phénomène. Non, il n'y a aucun doute à avoir. L'hostie, qui conserve encore aujourd'hui ses signes miraculeux, est l'objet de la dévotion de nombreux pèlerins qui, pendant l'octave du Saint-Sacrement, visitent la nouvelle basilique construite en 1862 par une généreuse bienfaitrice. Alors, le livre dans lequel je prends ces histoires, donc du catéchisme populaire de Françoise Pirago, ne date pas de notre époque. Il a eu l'imprimature en 1911. Oui, c'est ça, au début du XXe siècle, il a été écrit. Donc, c'est plus d'un siècle, n'est-ce pas? Donc, est-ce que ça dure? On ne sait pas. Encore une histoire. L'église du Corpus Christi de Cracovie. En 1345, des voleurs cambriolèrent à Cracovie l'église de la Toussaint, brisèrent le tabernacle, quelle horreur, et emportèrent avec l'hostie l'ostensoir qu'ils croyèrent d'or massif, mais qui, à leur grand désappointement, se trouva n'être qu'en cuivre doré. Les bourreaux, les malheureux. De dépit, ils le jetèrent avec l'hostie dans un étang, qui, toutes les nuits suivantes, s'éclaira d'une splendeur étrange. On fit des recherches et on retrouva l'ostensoir qui possédait l'hostie consacrée. Pour faire amende honorable, c'est-à-dire réparation, faire amende honorable de ce sacrilège et garder le souvenir du miracle, le roi Casimir fit élever à cet endroit la magnifique église du Corpus Christi, le corps du Christ, qui est une des merveilles de l'art gothique. L'hostie de Favernet. Favernet se trouve en Haute-Saône. Il y a un prêtre qui dit la messe, la bonne messe. L'hostie de Favernet. Le 26 mai 1608, il y avait adoration nocturne dans l'église abbatiale de Favernet, devant le Saint-Sacrement exposé sur le maître-autel, qu'on avait orné de tentures et de tapis précieux. Don Garnier, le moine de garde, voyant vers 11 heures qu'il n'y avait plus personne à l'église, la ferma et éteignit à l'autel tous les cierges, à l'exception de ceux prescrits par la liturgie. Il devait en laisser allumer. Mais quand il revint le matin à 3 heures pour ouvrir les portes, une épaisse fumée en sortit. Oh, le maître-autel avait pris feu, le tabernacle était brûlé, la pierre d'autel était fondue et couverte de cendres. Quand le jour commença à poindre, on vit l'ostensoir suspendu dans l'air et le peuple vint en foule contempler ce prodige qui dura pendant 33 heures. L'évêque de Besançon fit faire une enquête et dresser un procès-verbal de la déposition de 50 témoins oculaires, choisis parmi les personnes les plus cultivées, témoins oculaires, témoins qui ont vu de leurs yeux. L'hostie et l'ostensoir sont encore conservés et Pie IX, après un examen sérieux des actes, proclama solennellement l'authenticité du miracle dont le centenaire a été célébré solennellement en 1908. Je vous fais remarquer quelque chose. On dit que le Saint-Sacrement était exposé sur le maître-autel. On avait orné de tentures, de tapis précieux. Et le moine de garde, voyant 11 heures, il n'y avait plus personne à l'église, ferma l'église et éteignit à l'autel tous les cierges, à l'exception de ceux prescrits par la liturgie. Il devait en garder allumés parce qu'il y avait le Saint-Sacrement sur l'autel. Mais sachez que maintenant, lorsqu'on sort le Saint-Sacrement du tabernacle pour un salut de Saint-Sacrement, pour une adoration, il est interdit de le laisser sans adorateur. Le prêtre doit le remettre obligatoirement dans le tabernacle. Alors, est-ce que cette règle est venue à la suite justement de ces miracles eucharistiques qui ont prouvé qu'on laissait trop notre Seigneur tout seul? C'est possible. Bon, sachez que le Saint-Sacrement ne reste jamais tout seul sur l'autel sans adorateur. Le sanctuaire d'Amsterdam. En 1345, Amsterdam n'était encore qu'un petit village de pêcheurs. Le curé apporta cette année le Saint Viatique à un malade. Vous vous rappelez, le Saint Viatique, c'est la Sainte Eucharistie, la Sainte Communion donnée à une personne qui va bientôt mourir. On l'appelle Viatique, ça vient du mot via, qui veut dire la voie, V-O-I-O, le chemin. Donc le Saint-Sacrement est là pour aider l'âme à faire le dernier chemin pour aller au ciel. Donc le curé apporta cette année le Saint Viatique à un malade qui rejeta la Sainte aussi avec les autres aliments et dont la femme jeta le tout au feu. Il avait vomi et la femme a tout jeté au feu. Il ne faut pas faire ça. Sachez, là, ça peut arriver, hein. Une personne vomit après avoir communié, eh bien, on prend le linge qui est taché et on va tout mettre ça dehors, dans la terre. Mais on ne met pas ça au feu, ni encore moins à la poubelle. C'est comme si on mettait Jésus au feu. Disent que dans la terre, les saintes espèces vont se décomposer comme dans notre estomac, petit à petit. Mais quand le lendemain, elle ouvrit le poêle, elle y vit l'hostie entourée d'une brillante auréole. Oh, mon Dieu, quelle impression elle a dû avoir. Les habitants vinrent tous voir ce prodige et le clergé prit la sainte hostie pour la rapporter solennellement à l'église. Puis Jean, évêque d'Utrecht, fit faire une enquête rigoureuse qui certifia la réalité du miracle. Sur l'emplacement de la maison où le prodige avait eu lieu, on bâtit une chapelle qu'on appela le lieu saint et qui devint un pèlerinage où l'on conserva l'hostie miraculeuse. Or, le 24 mai 1452, Amsterdam devint la proie d'un grand incendie qui dévora aussi le lieu saint. mais sans toucher l'ostensoir ni le voile qui le recouvrait dans le tabernacle. Miracle. Dernière histoire pour aujourd'hui. Les processions du Saint-Sacrement à Lourdes. Pendant le mois d'août 1888, aucun miracle n'avait eu lieu à Lourdes, malgré la présence de 15 000 pèlerins, et un pieux prêtre proposa de porter solennellement le Saint-Sacrement entre les rangs des malades. L'évêque de Tarbes le permit, et la première procession fut suivie de près de 500 prêtres portant des cierges, tandis que les malades faisaient la haie sur leurs brancards ou sur leurs fauteuils roulants, et jetaient le cri de l'aveugle de Jéricho : « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi !» D'autres disaient la prière du centurion de Capharnaüm : « Seigneur, je ne suis pas digne, etc. » Beaucoup de malades furent guéris, et depuis, ces processions ont lieu tous les jours, rarement sans qu'il se produise quelques miracles. Maintenant, il y a moins de miracles qu'autrefois. Pourquoi cela ? Parce que, on va dire, l'Église a moins de trésors. Il y a moins de bonnes messes, de vraies messes qui se célèbrent. Il y a moins de saints sur la terre. Donc, le trésor de l'Église n'est pas rempli comme autrefois. Donc, il y a moins de grands miracles. Mais c'est très beau, vous vous souviendrez de cela, que si à Lourdes, vous avez peut-être vu des photos ou des vidéos de Lourdes où on voit les malades sur les brancards, tous les uns alignés, et les uns à côté des autres. Et le Saint-Sacrement, dans le sensoir, passe devant eux, le prêtre les bénit, et les malades, comme on vient de dire, crient « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi !» ou bien « Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne !» etc. Je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Je ne suis pas digne que vous me guérissiez, mais souvenez-vous que vous êtes infiniment miséricordieux et je compte sur votre amour infini. Quelle beauté sous ces miracles eucharistiques. Souvenez-vous-en quand vous êtes dans le Saint-Sacrement pour vous aider à fortifier votre foi en la présence réelle et vous aider à vous tenir bien correctement. Faire bien la génuflexion comme on l'a apprise, bien montrer du calme, de l'attention à Jésus, et pour faire plaisir à notre Seigneur, pour vous sanctifier, et aussi pour entraîner les autres à faire pareil. Vous êtes apôtre de Jésus aussi dans ces cas-là.